Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble dans Estelle Midi jusqu'à 15h avec tout d'abord Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Une petite nouvelle dans la bande et on est ravis de l'accueillir, c'est Loumire Laprey. Elle est prof à Sciences Po et également militante écolo. Salut Loumire.
Bonjour à toutes et à tous.
Et merci de rejoindre la bande d'Estelle Midi, notre médecin préféré Robert Sebag. Salut Robert.
Bonjour.
Qui nous fait le plaisir d'être là avant de partir au Liban pour faire de l'humanitaire. Et puis notre journaliste maison, Fred Hervel. Salut Fred.
Salut Estelle, bonjour à tous. Et allez, bienvenue Loumire.
Exactement, ah oui. Bah oui, oui.
En plus, elle a un bon moment. Alors. Oui, aussi. Bah, déjà, elle passe le premier cap.
Elle ne peut qu'être une personne.
Ah, bah oui, ça.
Au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, tout d'abord, la fin de la ristourne à la pompe et le prix du litre de carburant qui flirte désormais avec les 2 euros. Est-ce que vous vous sentez abandonné par l'État? On attend vos réactions au 32-16. À midi et demi, la petite phrase de Fabien Roussel sur Adrien Quatennens. Si mon fils avait fait ça, je ne lui adresserais plus jamais la parole. Le député LFI coupable d'avoir giflé sa femme, doit-il revenir à l'Assemblée nationale? À 13h, 1130 euros pour la retraite minimum. C'est l'annonce du ministre du Travail, Olivier Dussopt. C'est 85% du SMIC. Mais est-ce que c'est suffisant quand on a travaillé toute sa vie? On attend vos réactions sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On s'intéressera aux jus de fruits. Est-ce qu'il faut continuer à en consommer? Et puis à 14h, plus de 400 000 couples se séparent chaque année en France. Mais alors, manière douce ou manière forte, y a-t-il une bonne façon de rompre? On attend bien sûr tous vos témoignages au 32-16. Et puis peut-être Rémi,
oui,
qu'on ouvrira le coffre RMC et qu'on gagnera la totale RMC aujourd'hui.
Exactement, puisqu'à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 7-32-16. Si vous êtes sélectionné, vous gagnerez alors un Samsung Galaxy M23 et le rétroprojecteur portable. Et à ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous gardez votre cadeau, soit vous y renoncez et vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde. Je commence par ça. À l'intérieur, il y a notamment un four à mini pizza, un mini bar, une Xbox Series S, une barre de son et une télé 70 pouces. Pour vous inscrire, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, vous êtes dans Estelle Midi. On va tout de suite démarrer l'émission avec l'actualité du jour. Et c'est la fin de la ristourne gouvernementale à la pompe depuis ce matin. Les automobilistes payent désormais 20 centimes de plus par litre de carburant. Gros coup dur, Rémi, d'autant plus que les prix devraient continuer à monter.
Oui, il y a des chiffres qui font mal. Hein. Le gazole, carburant toujours plus largement majoritaire dans les ventes en France, frôle ou dépasse désormais les 2 euros le litre selon les stations et selon les régions depuis ce matin. Cela représente quand même un coût supplémentaire en 24 heures d'environ 15 euros pour un plein de 50 litres. Les automobilistes ne s'y sont pas trompés, se sont rués à la pompe ces derniers jours, vous l'avez peut-être constaté. Conséquence, près de 30% des stations-service de l'Hexagone étaient déclarées en rupture de diesel d'essence ou des deux carburants à la fois avant-hier. Et cette hausse des prix, tu l'as dit Estelle, n'est pas prête de s'arrêter. À partir du 1er janvier, la ristourne du gouvernement passera de 10 centimes à rien, sauf pour les gros rouleurs et encore l'aide reste à définir. Qu'en sera-t-il au cours des prochains mois? En 2023, certains experts craignent une nouvelle flambée des prix. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'Europe, dont la France, importe encore des hydrocarbures depuis la Russie. Mais elle devra cesser de le faire à partir du 5 décembre, date d'entrée d'un embargo. Les stocks stratégiques sont par ailleurs au plus bas, car les Occidentaux ont déjà beaucoup puisé dedans. Selon certains experts, les prix à la pompe pourraient à nouveau atteindre les 2,20 euros du litre de gazole au début de l'année 2023.
Alors, vous sentez-vous abandonné par l'État? C'est la question qu'on vous pose dans Estelle Midi. On attend bien sûr vos réactions au 32-16. Je vais commencer avec vous, Loumire Laprey, justement. Est-ce que l'État nous abandonne?
Oui. Alors, pour cette raison, mais pour une raison plus large, pour moi aussi, c'est quand même que au-delà de l'essence, enfin, moi, je sais, j'habite donc dans un village de 1500 habitants et j'ai fait mon plein il y a 2 jours. L'État, il nous abandonne sur ce sujet, mais c'est un révélateur d'un sujet plus large. L'inflation à 6,2%.
C'est la moins forte en Europe.
Oui, non mais certes, mais sauf que le fait est qu'on doit quand même faire nos courses, donc c'est terrible pour les Portugais, les Irlandais, les Anglais, mais nous on est quand même là et on doit faire nos courses. Donc moi, mon sujet il est plus large. Quand on parle d'essence, on peut pas ne pas parler de Total, par exemple. Et pour moi, l'État, il a vocation à redistribuer l'argent pour qu'on vive dans une société moins.
On est l'État le plus redistributif du monde.
Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est un des États les moins polarisés, où ça se passe encore le mieux. Je veux dire, quand on regarde les élections, vous parliez des midterms aux États-Unis ou les élections au Brésil, on a vraiment un pays coupé en deux. Moi, je pense que c'est parce qu'on vit dans un État où il y a de la redistribution qu'on arrive encore à avoir une cohésion de la société, etc. Certes, mais on a quand même aujourd'hui une situation où Total double ses profits au deuxième semestre 2022.
Après, c'est peut-être pas à Total de sauver la France, vous voyez ce que je veux dire ?
Non, c'est à l'État.
Quand on paye des impôts, on les paye pas à Total, en vrai, on les paye à l'État.
Tout à fait. Mais moi, je suis super d'accord avec ça, et c'est pour ça que je pense que l'État nous abandonne, dans le sens où il a lâché l'affaire, par exemple, de la taxation des super-profits. C'est pas à Total de nous aider. C'est à l'État de dire il faut réguler, en fait, tout simplement. Et cette régulation, elle va bénéficier à tout le monde si on fait ça.
Robert, est-ce que c'est quand même un mauvais timing là à un mois de Noël? C'est-à-dire que, est-ce que le gouvernement aurait pas dû laisser au moins jusqu'au 1er janvier? Enfin, de toute façon, qui quitte à perdre de l'argent, ils auraient pu continuer un mois de plus, quoi.
Alors deux choses. D'abord, quand l'État nous dit que ça lui coûte tant la ristourne, c'est pas de la dépense d'argent, c'est une absence de recettes.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est sur ses taxes. Hein, donc déjà, c'est pas une sortie d'argent. Ça, c'est important à dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. À partir de janvier, on va cibler effectivement cette aide.
On n'en sait rien en fait.
Attendez, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que entre le 15 novembre, la fin novembre et tout le mois de décembre, il se passe quoi ? Les gens, ils vont continuer. Hein, les gens qui travaillent, les PME, les PMI, tous les gens qui ont besoin d'un véhicule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a le coût de la matière première, c'est-à-dire le prix du baril. Alors, aujourd'hui, on sait, et là, c'est une décision politique. Est-ce que l'État doit intervenir auprès des membres de l'OPEP ? Pour dire, ben, vous augmentez.
Enfin, je pense que les membres de l'OPEP, ils s'en foutent. Hein.
Non, parce qu'on a vu qu'il y a eu un échec de Biden, si vous voulez, par rapport à l'Arabie Saoudite, où au lieu, si vous voulez, d'augmenter la production de pétrole, ils l'ont diminué. Donc, quand vous diminuez la production de pétrole, vous avez une augmentation du baril. Donc là, il y a aussi une intervention politique, et on ne sait pas quel sera le prix du baril début 2023. Donc, politiquement, c'est extrêmement important. Et puis, cette aide ciblée, on ne sait rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Et parce que, vous savez, on en parle régulièrement, on va voir le problème de l'effet seuil. On va dire à partir de là, vous avez droit à une aide ciblée, après, là, vous êtes à la limite.
Donc, non, mais il n'y a pas ça, parce qu'a priori, c'est quand même pour les travailleurs gros rouleurs. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Une grand-mère, voilà, qui est retraitée et qui va chercher tous les jours ses petits-enfants à l'école parce que justement, je veux dire, les parents travaillent. Elle travaille pas. Donc en fait, elle n'aura jamais d'aide.
Exactement.
Et si ça se trouve, je veux dire, elle a pas beaucoup d'argent et elle fait quand même peut-être 50 km par jour. Donc en fait, cette aide, elle va être uniquement pour les travailleurs. Mais il y a aussi d'autres gens qui vivent à la campagne et qui ont besoin de leur voiture tous les jours, même s'ils ne travaillent pas, en fait.
Tout à fait. Tout à fait.
Frère Hermel, est-ce que c'est une erreur de l'État d'avoir stoppé cette aide-là maintenant ?
C'est vrai que le message envoyé juste avant Noël n'est pas terrible.
Ouais.
Mais à notre côté, on ne peut pas constamment vivre dans une économie subventionnée. C'est-à-dire que, au moment, tu dis, et à juste titre, oui, c'est un manque de recettes. Enfin, c'est quand même de l'argent que l'État n'a pas. Donc, automatiquement, c'est une forme de dépense.
C'est un manque à gagner.
C'est une forme de dépense, quelque part. Donc, c'est un problème. On ne peut pas vivre constamment à crédit. On peut pas vivre constamment en disant, on a un problème, on met un sparadrap sur une jambe de bois, quoi, parce que c'est vraiment ça. Donc, mais moi, il y a un truc qui m'énerve là-dedans. C'est comme, au lieu d'assumer le fait de dire, écoutez, on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher. Au lieu de dire clairement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous parle des énergies fossiles, de la sortie du gasoil, d'écologie, etc. Mais au moins assumer que l'argent n'a plus les moyens d'apporter ce genre d'aide. Mais ils ne le font pas. Il déguise ça derrière le côté on veut pas inciter à la consommation d'énergie fossile.
Mais Fred,
non, mais ça c'est de l'hypocrisie totale. Et c'est ce que les Français ne supportent pas. Si tu dis aux Français clairement, écoutez, on n'a pas d'argent, on peut pas faire mieux.
Je crois que les Français ils l'ont compris. Hein.
Oui, mais justement, comme les Français sont moins cons que le pensent les dirigeants, ils ont compris que quand on te parle d'énergie fossile, que c'est pour la planète, etc. Non, on n'a pas d'argent, c'est tout. Arrête ces aides,
n'oubliez
parce qu'il n'y a pas d'argent.
N'oubliez pas, cher Fred, n'oubliez pas quand même ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Tout avait démarré sur la taxe carbone.
Bien sûr.
Si vous voulez, et moi, c'est une bombe à retardement. On ne sait pas du tout. Non seulement il n'y a pas d'indexation des salaires par rapport à l'inflation, il va y avoir
mais
aussi
ça,
ce coût de l'essence.
Ça n'a rien à faire à part les fonctionnaires.
Non, je veux dire là-dessus, ils ont très très peur. Ils ont très très peur que ce soit le déclenchement déclenchement, si vous voulez, c'est d'une sorte de révolte. Donc là-dessus, ils ont le entre deux chaises, je ne prononcerai pas le
nom.
Est-ce que effectivement, on va trouver une autre manière, si vous voulez, d'avoir ces ristournes, ou alors on dit, bon, ok, on assume avec tous les risques que ça implique.
Rémi, vous avez plein de messages sur l'application RMC.
Ça réagit très très vite, hein. Il y a Nicolas notamment sur Direct Studio qui nous dit, bonjour l'équipe, oui, je suis abandonné par l'État, on a deux voitures thermiques, on est obligé de les utiliser à l'année, travail, enfant, on ne peut pas faire sans, pourtant nous ne sommes pas isolés, c'est inadmissible d'avoir un produit vital pour 70 à 80% de la population à un tel prix, taxé à 70%. On ampute donc la liberté de se déplacer délibérément. Je rajouterais que mon loisir motocycliste est également amputé par le prix des carburants.
On a Fabien qui nous appelle de Colomiers, en Seine-et-Marne. Bonjour Fabien.
Bonjour, bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Fabien, est-ce que ce matin vous vous sentez abandonné par l'État avec la fin de la ristourne gouvernementale ?
Complètement. Je trouve quand même, là, on ne devrait même pas se poser la question. Les temps sont tellement durs pour tout le monde au niveau de l'énergie, que tout flambe depuis plusieurs années, et on se retrouve là actuellement, donc à partir d'aujourd'hui, la ristourne qui diminue au niveau de l'État comme de Total aussi, hein. Et on se retrouve en fin de compte à toujours consommer autant et toujours payer autant, et l'État en fin de compte ferme les yeux sur en fin de compte cette pénurie qu'on a au niveau de ce besoin au quotidien de se déplacer, et en fin de compte ils ne font rien que en fin de compte repousser les chances de savoir que le pétrole reste hyper taxé, et aucune ristourne n'est faite en fin de compte pour continuer à nous aider au quotidien, en sachant que nous on n'a rien demandé de tout ça, nous on est des consommateurs, on fait
mais l'État non plus ils n'ont rien demandé de tout ça.
Ça c'est sûr.
L'État, s'il pouvait avoir un litre de carburant à 1,10€, il prendrait. Hein.
Oui, et rappelez-moi combien il y a de taxes sur le carburant.
Oui, mais si vous voulez, s'ils peuvent s'épargner effectivement un gilet jaune 2.0 ou des grèves ou un mécontentement de la population, je pense qu'ils le feront, vous voyez.
Donc, ça je l'entends bien.
Ils vont pas déboucher le champagne parce que le litre de carburant passe à 2,50€, même si c'est taxé en plus. Hein.
Oui, mais là, les gens qui ont besoin de se déplacer et d'utiliser donc l'énergie fossile pour mettre de l'essence, leur pouvoir d'achat déjà sur l'essence, elle a explosé. Et après, on parle derrière de tout ce qui est les transports, de tout ce qui est la nourriture. Tout explose. Il y a la seule chose qui n'explose pas, c'est les salaires. Moi, maintenant, je veux bien, si on gagnerait tous 6 000 € tous les mois, on ne se poserait pas la question. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Encore, je n'ai pas trop à me plaindre par rapport à mon salaire. Je ne gagne pas des milliers d'essence. Mais je ne sais même pas comment font les autres personnes qui sont des smicards. Et qui, au quotidien, ils doivent se dire je compte les centimes pour faire vivre ma famille.
C'est ça. Moi, je vous dis franchement, c'est des arbitrages en permanence.
Voilà, c'est pour ça que moi je vous dis, pas de souci, ils peuvent augmenter l'essence, mais à un moment donné, il faut être aussi logique avec ce que la population gagne. Et actuellement, tout augmente.
Oui, c'est vrai, bien sûr, mais vous avez raison, Fabien.
Et on fait quoi à la fin ? On fait quoi ? On suce les cailloux ?
C'est bien le problème. Merci en tout cas, Fabien, d'avoir été avec nous sur RMC. Est-ce que quelque part, alors là, je suis très cynique, mais ça peut aussi nous permettre finalement cette hausse des prix des carburants, Lumière, de changer nos habitudes, de plus prendre la voiture pour un oui pour un non, et que quand on a 500 mètres à faire, peut-être qu'on peut on peut s'éviter ça, quoi, tout simplement. Quoi.
Je pense que c'est une très bonne question. Mais il y a un mot qui a été utilisé qui me parle beaucoup, c'est besoin vital. En fait, pour beaucoup de gens, la voiture, c'est pas un luxe, c'est travailler ou pas travailler, aller à l'hosto ou pas aller à l'hosto, etc. Donc il faut quand même prendre en compte le fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent pas faire sans voiture. Moi, j'habite encore une fois dans un village, la première ville, elle est à 10 minutes en voiture, pour aller faire mes courses, je suis obligée d'y aller parce qu'il n'y a rien dans mon village. Donc ça, il faut le prendre en compte. Par ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait faire différemment. Je vais donner un exemple encore. Pour faire chez moi Lyon, c'est 1 heure de trajet. Il y a une gare, pas très loin de chez moi, où en 23 minutes, je peux faire ce trajet. Sauf que le ticket, il est à 10,60€. Donc, aller-retour, c'est plus de 20€ par jour. Et il est en retard une fois sur deux, et parfois, il est juste supprimé. Donc, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à vouloir faire autrement, parce qu'en fait, c'est nous qui payons à la fin. La question, c'est quel moyen l'État met sur le train, par exemple. Quand je vois qu'il n'y a pas de plateforme modale autour de Lyon pour poser notre voiture et prendre un transport en commun. Enfin, en fait, il y a un moment, les gens, ils veulent faire des économies, mais ils tiennent surtout à leur travail, donc ils veulent arriver à l'heure. Donc,
c'est ça.
Enfin, On en arrive à prendre des trains 3 heures en avance pour être sûr de l'avoir.
Exactement. Si les transports en commun et les transports publics étaient mieux en France, on n'en serait pas là en fait.
Bah oui, parce que oui, il y a peut-être un peu de confort parfois à prendre sa voiture,
mais malheureusement en 3 semaines.
Bah oui, mais sauf que l'État a la solution.
Estelle, le rôle des politiques, c'est de prendre des risques et des décisions. Ça veut dire.
Non, mais
ça veut dire. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils décident d'une baisse des taxes, qui pourrait régler un petit peu le problème, ça veut dire qu'il faudrait faire des économies au niveau de l'État, puisque c'est un manque à gagner. Donc l'État nous demande de faire des économies aux citoyens. Peut-être que lui aussi devrait prévoir un certain nombre d'économies, ce qui pourrait compenser, si vous voulez, la baisse des taxes.
Il faut quand même trouver une solution. Non, c'est ce que fait déjà l'État.
Ou des nouvelles rentrées d'argent.
Ça veut dire que c'est des choix politiques de l'État.
Tu le sais, Rémi.
Non, mais quand Robert dit on pourrait baisser les taxes et dans ce cas, en faisant, l'État pourrait baisser les taxes en faisant des économies sur d'autres. C'est très compliqué.
Oui, c'est compliqué. Il y a une question de
leur travail.
Tout est compliqué.
Est-ce que l'argent est bien dépensé par l'État?
Qu'est-ce
que
l'État?
Oui, mais c'est une bonne question, oui.
Non, mais il y a déjà, et quand c'est arrivé, la grande déception du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la réforme de l'État. C'est-à-dire, OK, il y a eu le Covid.
En même temps, il y a eu quelques galères.
Oui, mais c'est pas vrai.
Il y a eu quelques galères. Mais c'est vrai qu'il était là et beaucoup de gens ont voté pour lui en disant, on va dégraisser un peu le mammouth de l'administration française, on va rendre les choses un peu plus simples, c'était la grande mission, on va moderniser ce pays au niveau de son fonctionnement, qui coûte un bras. C'est-à-dire que le problème, c'est que, on va, très bien, on parle de l'hôpital, on parle de tout, la police, il y a tellement d'administratifs qu'il n'y a pas de gens sur le terrain. Et Macron n'a pas réussi ça. Ça restera sur mon échec.
Des choses quand même. La réforme de la SNCF, je suis désolé,
les régimes spéciaux. C'est-à-dire que l'administration générale en France n'a pas été réformée, donc Macron ne l'a pas fait. Donc ces économies, où va l'argent? L'argent, il continue d'aller là où finalement il est dépensé pour rien.
Joseph nous appelle de Comte, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour.
Et Joseph, vous êtes artisan, évidemment vous êtes obligé de vous servir de votre voiture. Vous aussi, vous vous sentez abandonné par l'État ce matin?
Bah écoutez, non, pas tellement, puisqu'on n'a pas été pris en traître. Hein.
Ouais,
on nous l'a expliqué, on nous l'a dit. Maintenant, écoutez, le problème qui se passe aujourd'hui, je pense, c'est qu'on vit trop sur les aides. On attend trop de l'État.
Non, mais il y a des gens qui n'ont que ça, en fait, Joseph, malheureusement.
Moi aussi, je ne gagne pas 10 000 euros par mois. Je me fais 70 à 80 heures par semaine. Je me déplace beaucoup. J'ai plusieurs sociétés, plusieurs employés. Le problème que l'on a aujourd'hui, je pense, il est plus important que ça. Aujourd'hui, on est dans un système où c'est qu'on veut trop de l'État. Au Covid, ils nous ont aidés.
Ouais.
Ils nous ont aidés pour l'essence. Ils nous ont dit que ça allait s'arrêter. Il faut accepter. On nous l'a dit il y a déjà 2 ou 3 mois que ça allait s'arrêter au mois de novembre.
Ouais, mais Joseph, alors vous êtes artisan, vous faites comment? C'est-à-dire que si, par exemple, votre plein, il vous coûte trop cher...
Je fais payer la livraison.
Ah oui.
Je fais payer la livraison. Je dois livrer un bouquet de fleurs. Je fais payer la livraison. Malheureusement, c'est toujours pareil.
Donc ça se répercute sur le client, en fait.
Et c'est l'inflation. C'est l'inflation.
Oui, bien sûr.
C'est la règle. C'est l'inflation. Tout augmente.
Mais vous n'avez pas des clients qui vous disent « Oh là là, monsieur, là pour le coup, ça devient trop cher. »
Je leur explique. Mon père, ce n'est pas monsieur Total. Je leur explique que je n'ai pas de droit de passe. Et qu'au bout d'un moment, moi, ce qui me faisait râler il y a quelques mois, je vais vous dire, Estelle, c'est quoi? C'est qu'on disait « Il ne faut pas aider tous les gens. Il faut aider que ceux qui sont dans le besoin. » Donc on considère que moi, artisan, je ne suis pas dans le besoin. Pour quelle raison?
Je pense pas qu'on considère ça, Joseph. Parce que par exemple, justement, l'État sur le carburant, il a aidé tout le monde.
Ben justement.
C'est-à-dire vous comme Bernard Arnault.
Estelle, excusez-moi, mais il y a 2 ou 3 mois de ça, le gouvernement ne voulait pas aider tout le monde. Il voulait aider qu'une certaine partie de la population.
Mais ouais, mais c'est une usine à gaz, c'est impossible à mettre en place.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Ils nous ont pas pris en traître, ils nous ont prévenus. Le 15 novembre, ça allait s'arrêter. Ça s'arrête le 15 novembre. Hier, j'ai fait 4 stations pour trouver de l'essence.
Mais on ne peut pas faire de stock. On est averti, mais les gens ne pouvaient pas stocker. On peut faire des stocks sur l'alimentaire, mais on ne peut pas faire des stocks sur l'essence.
Monsieur, je ne dis pas qu'il faut stocker. Je dis simplement qu'on n'a pas été pris en traître hier matin.
Ah, ça, c'est vrai.
Hier soir, ça allait s'arrêter.
Mais c'est pas pour ça que c'est plus simple. Oui.
Je ne dis pas que c'est plus simple et je ne dis pas que c'est plus facile pour moi. Je dis simplement qu'il faut aussi accepter qu'à un moment ou à un autre, on arrête de vivre sur l'État. Puisque moi aujourd'hui je paye beaucoup de taxes, croyez-moi que mes taxes, elles vont pas que pour les artisans commerçants. Elles vont aussi pour les gens qui travaillent pas, les gens qui sont au chômage et qui travaillent au black. À côté. Et oui, il faut penser à tout ça aussi. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui,
qu'à l'époque. Ils vous font concurrence.
Non, mais vous avez raison, Joseph.
Et aux profs, et aux aides-soignants.
Vous savez qui c'est qui vient aujourd'hui dans les brocantes et dans les marchés, faire les marchés? Des Italiens qui font payer 2,50 € un pot de cyclamen, ou c'est que moi je le vends 10 €. Ça, c'est plus grave à expliquer à mes clients.
Mais bien sûr, mais non, mais ça, ça vous dérange, mais ça, c'est la concurrence et ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Mais merci Joseph, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin sur sur RMC. Oui, il est philosophe, Joseph. On nous a pas pris en traite. Non, c'est vrai quand même que là, pendant l'été, le litre d'essence, il était redescendu de mémoire à aller 1,70. Oui. Et c'est vrai que si l'État avait mis en place plutôt une baisse sur la taxe plutôt qu'une ristourne de 30 centimes, bah on, je veux dire, ça aurait été quand même plus clair pour tout le monde. Là, le carburant il est hyper cher, bah on aurait payé moins cher. Et puis cet été, quand le carburant était moins cher, la ristourne aurait été moins bonne, aurait été moins forte. Mais c'est parce que là, en fait, on va tous payer, je veux dire, 20% d'augmentation sur l'électricité et le gaz à partir du 1er janvier. Vous avez la fin de la ristourne sur l'essence. Le mois de janvier, il va être compliqué. Hein.
Très dur.
Il va être très très compliqué.
Surtout pour les entreprises.
Mais bien sûr.
Parce que les 15%, c'est d'abord pour les particuliers. On n'a pas réglé encore le problème, si vous voulez, du coup, pour les entreprises, hein, concernant l'énergie.
Bah oui, mais le petit artisan, là, justement, qui nous appelle, lui, il a la double peine.
Il a la double peine, l'essence. Il a...
Et ça, ça va être très, très compliqué à gérer, certainement, pour le gouvernement. On termine avec des messages, Rémi.
Message de Bob, justement, qui va dans le sens de ce qu'on entendait un peu à l'instant.
De Joseph.
On est tellement assisté qu'on attend tout de l'État. Dans tous les cas, si l'État baisse les taxes sur le carburant, il les récupérera ailleurs. En France,
ça, c'est clair.
On veut tout gratuit, des aides partout, mais personne ne veut payer d'impôts, de taxes ou de TVA. Il faut savoir ce qu'on veut.
Alors on vous a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi @EstelleMidi, la fin de la ristourne gouvernementale à la pompe, est-ce que vous vous sentez abandonné par l'État, Rémi?
Alors à votre avis, c'est une majorité de
oui,
ça
je
vous dis, mais c'est pas si massif que ça.
62%.
66%.
Ah voilà, hein, c'est pas loin.
Se sentent abandonnés par l'État.
Ouais. Voilà. Et puis le reste, c'est les gens avec qui, comme Joseph dit, on a été prévenus et on peut pas se faire aider tout le temps. Dans un instant, changement total de sujet, on parlera de la petite phrase du jour. Fabien Roussel qui dit sur Adrien Quatennens, vous savez, ce député qui est coupable d'avoir donné une gifle à sa femme. Si mon fils avait fait ce que Quatennens a fait à sa femme, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Est-ce qu'Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée nationale? A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 30 sur RMC, RMC Story. On est de retour dans Estelle Midi, évidemment, avec Rémi Barré, avec notre petite nouvelle dans la bande, Loumire Lapré. Elle est militante écolo. Notre médecin, bien sûr, Robert Sebag. Et le journaliste Fred Hermel. On était également avec vous au 32-16 pour réagir à notre débat. Là, tout de suite, maintenant, avec cette petite phrase du jour signée Fabien Roussel sur son collègue député LFI, Adrien Quatennens, coupable d'avoir donné une gifle à son ex-épouse. Il a dit, Fabien Roussel, si mon fils avait fait ce que Quatennens a fait à sa femme, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Des mots très durs à l'encontre de celui qui s'apprêterait à revenir à l'Assemblée nationale. Rémi, justement, est-ce qu'il a le droit de revenir dans l'hémicycle?
En tout cas, juridiquement, personne ne peut s'y opposer. Le député LFI est bien visé par une plainte de la part de son ex-compagne. Une enquête va être instruite. Mais pour le moment, il n'y a aucune mise en examen et encore moins de condamnation. Même si l'élu a reconnu lui avoir donné une gifle. Mais encore une fois, rien ne l'oblige juridiquement à quitter ou à ne pas revenir à l'hémicycle. Et il ne serait pas le seul d'ailleurs à continuer à siéger alors qu'une information judiciaire est ouverte à son encontre. Exemple avec le député de la majorité, Damien Abad, bah oui, qui fait l'objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols et qui est de retour à l'Assemblée depuis cet été, les députés de l'Ain. Reste la question morale et politique. À la France insoumise, on prépare son retour, alors que jusqu'ici, Adrien Quatennens était en arrêt maladie. Interrogé sur le sujet, Jean-Luc Mélenchon ne cesse de le répéter. Adrien a avoué une gifle. Est-ce que ça le rend inéligible à vie? Il va remonter sur son cheval et nous allons l'aider, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Même si tout le monde...
L'aider à quoi?
L'aider à revenir tranquillement, doucement, peut-être discrètement, j'en sais rien, mais en tout cas, on va l'appuyer. Même si tout le monde au sein même du parti et dans l'hémicycle n'est pas tout à fait du même avis. Hier, à l'Assemblée, des journalistes ont interrogé des élus, des députés LFI. Certains n'ont pas voulu répondre à la question. Bon, donc on sent qu'il y a une petite gêne chez certains. Et puis, certains s'y opposent tout à fait. Hein. Rappelons qu'une gifle est un délit.
Délit.
La députée écologiste Sandrine Rousseau affirme ainsi qu'il est impossible de revenir comme si de rien n'était.
Sauf s'il mène un combat sur les femmes. Alors moi, ce que je veux dire, il y a quelque chose qui m'étonne. On me parle... C'est la fin de son arrêt maladie. Alors c'est pas lui la victime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en dépression? Non, mais j'ai envie de savoir comme médecin. C'était quoi? Quelle était la raison de cet arrêt maladie? Il était en dépression?
Il a eu un secret médical, Robert,
Je sais pas, mais on a envie de savoir.
Vous voulez dire qu'il est pas malade?
Non, je sais pas. Est-ce que c'était un arrêt maladie de complaisance? Ça existe.
Ça a dû être vérifié.
Je ne sais pas. Je me pose la question. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la légitimité d'un député, c'est le vote des électeurs.
Il a été élu.
Il a été élu, il a été élu. Maintenant, quand il a été élu, il n'y avait pas de problème de délit, il n'y avait pas de problème de la gifle qu'il a effectivement avoué. Maintenant, je veux dire que si on veut vraiment être clean sur cette affaire, il faut qu'il se représente devant ses électeurs. Ou les électeurs de sa circonscription. Il démissionne, il se représente. Les électeurs de sa circonscription, soit ils disent « il mérite » et à nouveau, je le réélis. Et là, il n'y a plus aucun problème, on ne se pose plus de questions. Soit là, effectivement, c'est au bon vouloir. Mais s'il fait pas ça, il y aura toujours une tâche. Je veux dire, quelle que soit son intervention, lui ressortira. Il a une sorte de boulet, si vous voulez.
Il y aura toujours une tâche, Robert.
Voilà. Non, parce que s'il est réélu, il va dire, écoutez,
les électeurs étaient informés. Elle sera toujours là.
Elle a toujours été là. Mais il se représente devant les électeurs. Oui, j'ai donné une gifle, je l'ai avoué, etc. Tout ce qui s'est passé. Maintenant, je vous redemande, est-ce que vous me faites confiance à nouveau ou pas?
Et là, c'est la nouvelle légitimité. Il a été réélu.
C'est bon.
Lumière Laprès, alors vous avez été vous candidate Nupes aux dernières législatives. Justement, ce retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, ça doit un peu vous gêner aux entournures, quoi.
Ça me questionne. Déjà. Je pense que, il faut reconnaître que c'est une faute grave, c'est un délit. C'est juridiquement qualifié comme un délit. Donc, il n'y a pas à rentrer par la petite porte, à faire comme si de rien n'était. Par contre, la condamnation définitive, totale, elle me gêne aussi parce que personne n'est parfait. Et moi, ce qui me gêne, ayant fait un tout petit peu de politique, et c'était, je veux dire, je suis une bébé politique par rapport à d'autres. Si on attend de nos représentants qu'ils soient parfaits, on va être toujours déçus.
Donc, on peut attendre qu'ils ne commettent pas de délit.
Alors l'exemplarité.
Ça n'a rien à voir sur la perfection.
Ça, je suis assez d'accord.
L'exemplarité, Loumir.
Oui, je suis d'accord. Non, mais je veux dire, moi, j'ai pas de réponse. Ce que je veux dire, c'est que ça me questionne. Entre condamnation absolue et absolution, c'est quoi la troisième voie? Est-ce que c'est une justice?
La troisième voie, c'est qu'il démissionne.
Restaurative. Alors, voilà, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a différentes solutions. Par exemple, qu'il démissionne et qu'il soit reporté devant les suffrages. Je veux quand même dire que Damien Abad, qui a été élu chez moi, il a été réélu malgré les accusations de viol. Il est quand même accusé de viol. Donc en fait, ça, je suis d'accord avec vous, ça.
Oui, mais pour l'instant, il est accusé. Il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas Adrien Quatennens. Il a avoué. Donc oui, il y a un délit.
Bien sûr. Mais c'est ça. D'ailleurs, Aurore Berger qui lui avait dit, et c'est complètement différent pour Gérald Darmanin et Damien Abad et Adrien Quatennens parce qu'il a avoué. Mais alors du coup, quoi? Quand on dit aux hommes, il faut avancer, il faut reconnaître, et que quand ils le font, c'est la double peine. En fait, ils reconnaissent et après ils sont doublement
sanctionnés.
Et moi, ce qui m'inquiète un peu à gauche, c'est notre volonté d'avoir des gens parfaits, alors que en face, ils ne le font pas. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour être clean, pour être exemplaire, sans devenir un parti de chasse aux sorcières?
D'accord.
Parce que c'est ça, et demain, ce sera quoi d'autre?
Vous faites tout le temps à la NUP.
Oui, mais c'est un problème.
Ce que tu viens de dire, moi, j'hallucine.
C'est un problème.
Ta vision de ton opposition, enfin des gens qui ne pensent pas comme toi, comme dans ton parti, se dire nous, il faut pas qu'on soit exemplaire parce que de toute façon, en face, ils ne sont pas.
Alors j'ai pas dit ça.
Par principe, en face, ils ne le sont pas. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Alors peut-être que je ne t'ai pas compris. C'est ta première, donc je vais être gentil avec toi, mais quand même.
Sois gentil.
Bah oui. Non. Parce que alors. Tu dis non. Mais pourquoi? Mais écoute ce que tu as dit. Nous, pourquoi on serait? Ça sert à rien d'être exemplaire. En face, ils sont
non,
pas.
C'est pas ce que j'ai dit.
J'ai pas compris.
J'ai
alors.
Dit parfait.
Ouais, compris,
ouais. En fait, personne n'est parfait.
Non, personne n'est parfait.
Donc moi, ça m'interroge. Si on attend de nos leaders qu'ils soient parfaits, alors à la moindre incartade, et en fait les gens
c'est
sont
pas une
humains,
incartade, c'est un délit. Alors, non mais en fait,
je suis d'accord.
Ça me gêne. En fait, c'est mon gêne parce que encore une fois, il a pas fait du 136 sur autoroute. Il a commis un délit. Il a.
Non mais ça, je suis tout à fait d'accord.
Aujourd'hui, alors déjà que c'était pas acceptable avant, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Et on peut pas, je veux dire, on peut pas faire comme si c'était juste une petite anicroche, quoi. Bah non.
Je suis complètement d'accord.
C'est un délit.
Non mais surtout que ce parti,
c'était des donneurs de leçons.
Les donneurs de leçons. C'est-à-dire qu'ils sont la sulfateuse du matin au soir. À chercher des poux dans la tête de tout le monde. Mais ça c'est la vérité. Ensuite, moi je suis tout à fait d'accord avec Robert sur l'histoire de la démission. Alors attention, il doit se dépêcher. Il faut que ça soit dans les 6 mois.
Avant la dissolution.
Non. J'ai regardé un peu la loi simplement ce matin. Si un député démissionne avant 6 mois avant 6 mois avant les 6 mois après son élection, voilà. là, il y a de nouvelles élections. Sinon, c'est son suppléant qui devient. Et il faudrait que le suppléant démissionne aussi. Alors voilà, il faut. C'est très compliqué. Il faut qu'il se décide. Mais le problème, c'est que comme la France Insoumise ne va jamais pousser Adrien Quatennens à la démission, on n'aura pas cette question. Ça aurait été évident.
Mais lorsque Jean-Luc Mélenchon, quand même, le défend plutôt.
Ben oui, mais ça, c'est pas le pousser à la démission.
Et c'est un problème, y compris au sein du parti. Hein, je tiens quand même à le dire. Hein. Au sein du parti, il y a eu des voix discordantes qui ont dit en fait, on peut pas faire comme si de rien n'était. Et juste pour être clair, parce que pour moi, il faut juste mettre de la nuance dans le sens où, à gauche, on a tendance à le faire, et c'est un problème, à dire radicalement bon, mauvais.
Oui, ah ben c'est clair. Oui.
Et pour moi, il faut ramener de la nuance dans le sens où il y a un gradient. En fait, il y a droguer des femmes et les violer, abuser de son pouvoir pour violer des femmes, mettre une gifle. Mais tout ça, c'est problématique. Hein. Enfin, mais d'ailleurs,
on juridiquement... On peut faire dans la violence, en fait.
Mais en fait... Oui, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que la loi le fait.
La loi fait.
Entre droguer, voilà. Violer et mettre une gifle.
Oui. Voilà. Donc, il y a
c'est un délit quand même.
Ah, c'est un délit.
Bien sûr.
Mais c'est pas pareil.
Bien sûr.
Le viol, c'est pas
pareil. Et moi, ma question, c'est en fait, comment est-ce que, en tant que. Ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être l'occasion d'un débat en interne, chez nous, pour dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Et de manière nuancée, de dire, OK, en fait, faire des erreurs, ça peut arriver. Comment est-ce qu'on se fait pardonner? Comment est-ce qu'on grandit? Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société.
C'est un peu ce qu'ils sont en rousseau, d'ailleurs.
Voilà. Où on fait une connerie, paf, on est cancel pour toujours, on remet plus les pieds. Bah non, parce que c'est la même chose dans nos foyers, c'est la même chose sur le lieu de travail. Comment est-ce qu'on apprend de ces erreurs? Moi, c'est ça ma question. Et on n'a pas de réponse aujourd'hui à gauche.
Robert Sebag, est-ce que quand même sa présence peut servir la cause des femmes? Je m'explique, effectivement, comme le dit Loumire, il a avoué, voilà, il a dit, bah, j'ai giflé ma femme. Et en fait, justement, un peu ce que dit Sandrine Rousseau, il va falloir qu'ils servent la cause des femmes maintenant.
C'est ce que demande Sandrine Rousseau.
Justement, qu'ils fassent acte de contrition quelque part.
Oui, mais il restera toujours le fait qu'il a donné une gifle à une femme. Donc, il s'est excusé, il a reconnu, mais est-ce que ça peut être le porte-parole de ce type de combat? C'est pour ça que, bon, effectivement, c'est une condition, mais je pense que ça passera pas. C'est pour ça que il me semble, bien sûr, il y a les problèmes juridiques liés à 6 mois, pas 6 mois, que la seule solution pour lui, si vous voulez, c'est effectivement la démission et retourner devant les électeurs. C'est la seule légitimité aujourd'hui, c'est la légitimité démocratique.
En attendant la justice.
Ou pour, oui, il peut y avoir une phase,
on rend la justice au nom du peuple français, mais c'est pas le peuple français qui rend la justice en disant on va la foutre parce qu'on a voté pour lui.
Vous avez raison, puisque sa femme, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Donc s'il y a plainte, il y aura enquête.
C'est ce que dit. Il y a une enquête en cours. Il y a une instruction judiciaire. Et c'est ce que dit Olivier Adrien sur Direct Studio. Adrien
Quatennens. C'est une plainte. C'est plus une main courante.
Oui, absolument. Adrien Quatennens a donné une gifle à sa femme. Il ne l'a pas nié, a reconnu sa faute. Une instruction est en cours et la justice passera, nous dit Olivier. Cela ne remet pas en cause ni son mandat, ni ses compétences. Si la justice le condamne à l'inéligibilité, alors d'accord. Mais ce n'est pas au personnel politique de le condamner. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs.
On est avec Jérémy qui nous appelle du Bourdoisan dans l'Isère. Bonjour Jérémy.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Jérémy. Bonjour.
Jérémy, vous vouliez nous donner votre avis sur ce débat. Est-ce qu'Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée nationale? Pour vous ?
Pour moi, non. Comme j'ai dit sur Direct Studio, moi, il y a un petit truc qui dérange dans l'histoire, c'est que la NUPES ont toujours été vent debout pour la défense des femmes sur les diverses affaires qu'on a eues, sur les féminicides. Et là, du coup, on doit pardonner les lanceurs de morale, en fait. Et là où ça me dérange, c'est que l'affaire Abad, ils étaient tous vent debout pour que Monsieur Abad démissionne. Et là, on a des faits qui sont avérés, avoués et admis. On accepte ça, en fait. Et moi, c'est un problème d'exemplarité qui me dérange. Donc, pour moi, Quatennens n'a plus sa place à l'Assemblée nationale.
Bah, sauf s'il démissionne et qu'il est réélu.
Ben, la preuve que non, puisqu'il souhaiterait se représenter.
Oui, mais enfin là pour l'instant non.
Pour le moment, il n'a pas annoncé qu'il se représente.
Exactement. Pour l'instant, il va revenir à l'Assemblée nationale.
Ça me dérange parce qu'on crie, on demande de l'exemplarité dans tous les sens, et c'est pas le cas quoi.
Ouais, ça vient à gauche. Pour vous, Jérémy, le fait qu'il est avoué, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire.
Mais il y a, comme je vous ai dit, l'affaire Abad.
Mais il n'a pas avoué.
Il n'a pas avoué. Il est présumé innocent, mais ça, la NUPES en fait fi. Ils s'en foutent de la présomption d'innocence. Mais pour les membres de leur parti, on doit les pardonner. Ben non, moi je pardonne pas en fait. Et de morale, exemplarité, tout simplement.
Estelle,
eh ben merci beaucoup Jérémy d'avoir été
Estelle,
avec nous.
Estelle, il ne faut pas nier la dimension politique. La dimension politique, c'est qu'il y a une fracture au sein de la NUPES. Parce qu'on voit qu'effectivement, voilà. LFI, si vous voulez, ils veulent pas en parler. Il y a eu un truc dans l'Assemblée où tout le monde refusait de parler. Par contre, on sait que des membres du Parti Socialiste et Fabien Roussel, vous l'avez dit en introduction,
il peut
y avoir une sorte d'explosion, puisque là, il n'y a pas d'accord du tout entre les différentes...
Ce qui était à prévoir déjà au moment des élections.
Les différents groupes de la NUPES. Mais là, il y a quelque chose d'extrêmement concret. Donc, la dimension politique, elle n'est pas niée non plus.
On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Adrien Quatennens, le député LFI, doit-il revenir à l'Assemblée nationale, Rémi?
Alors, c'est un verdict populaire, là. C'est une consultation sur nos réseaux sociaux et c'est le non qui l'emporte majoritairement à 68%.
Ben, c'est la défiance des politiques, hein. On revient toujours au même sujet.
D'où l'enjeu
des défiance des politiques.
Dans un instant, on va parler de course avec Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès. Anthony Morel qui va nous parler de livraison de courses, non pas sur votre palier, non pas juste à côté, non, dans votre frigo. C'est-à-dire que le livreur, il va arriver, il va avoir vos clés, il va rentrer chez vous, il vous met la livraison dans le frigo et il repart. Est-ce que vous accepteriez ça? En tout cas, Anthony Morel nous dit tout dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 48 sur RMC, RMC Story, c'est le moment de parler nouvelles technologies et progrès. Voici tout de suite Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, on va parler de distribution de courses à domicile. Bon, bah ça on connaît, hein, ça a lieu depuis plusieurs années. Mais, il y a du nouveau. Bientôt, on va pouvoir être livré directement dans notre frigo.
Ouais, c'est ça. Le frigo qui se remplit tout seul, comme par magie, quand vous n'êtes pas là.
Si en plus c'est gratuit.
Et alors, non, faut payer quand même.
Ah oui, bon,
ça, je précise quand même. C'est testé en ce moment par Carrefour. On peut imaginer que tous ses concurrents vont le suivre. Ils sont en fait imités Walmart aux États-Unis, grande enseigne de distribution qui fait ça depuis des années. Ça fonctionne très très bien là-bas. Et donc le principe, c'est que vous passez votre commande de course comme aujourd'hui sur Internet, de manière tout à fait classique. Le livreur arrive, alors il va ouvrir votre porte. Ça veut dire que c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir une serrure connectée. C'est des serrures qui peuvent se déverrouiller avec un smartphone. Il y en a de plus en plus. Ouais, absolument. On peut, avec un code, voilà, avec son téléphone, déverrouiller. Alors là, pour le coup, le livreur, il va avoir un code à usage unique qu'il va pouvoir utiliser dans un créneau très précis de livraison. Il arrive, il ouvre votre porte. Vous recevez une alerte sur votre téléphone pour vous dire le livreur est entré. Et là, bah, il range les courses. Alors, il met le frais au frigo, au congélateur, l'épicerie sur la table, tout est bien rangé. Le petit selfie des courses, on prend une petite photo pour vous l'envoyer pour voir que tout est bien rangé. Mmh. Il sort, une fois que la porte est verrouillée, vous recevez une alerte et c'est terminé. Voilà. En gros, ça, c'est le principe. Alors.
Non, mais il peut repérer pour des cambrioleurs, par exemple.
Alors, c'est toute la question. Bah, en termes de sécurité, moi, je trouve que pour l'instant, effectivement, en France, c'est un petit peu bancal parce qu'on sait pas, on n'a pas de certitude sur ce que fait le livreur quand il est chez vous. Aux États-Unis, ils ont une méthode un petit peu plus radicale, mais je pense qu'en France, ça va être compliqué pour des questions de respect de la vie privée. Voilà, exactement. En fait, les livreurs de Walmart, ils ont une caméra, mais qu'ils portent sur eux. Ouais. Et donc, on filme. Et donc, vous pouvez le suivre en temps réel et savoir exactement où il se trouve dans votre maison et s'il va pas se balader dans votre chambre ou je sais pas quoi.
Bah, s'il y a un chien, déjà, il va lui sauter dessus.
Ah oui, alors ça, faut prévoir quand même. Le coup du chien, c'est pas très sympa pour le livreur.
En vrai, on n'est pas obligé, quoi.
Bon, ouais, on n'est pas obligé, mais enfin, c'est quand même très pratique. Alors, en tout cas, aux États-Unis, ça fonctionne très très bien. Il y a des millions d'utilisateurs pour ce service. Sachant que l'étape d'après, c'est carrément le frigo qui pourra passer lui-même la commande quand il
pourra aller faire les courses au supermarché.
Alors, ça, je suis
pas rentré. J'ai perdu mon frigo.
Ouais. Non, mais bon, en gros, c'est l'acte des courses qui va devenir de plus en plus simple, quoi, qui va quasiment s'automatiser, avec l'enjeu aussi, le fait que vous oubliez que vous dépensez de l'argent en réalité, hein, parce que tout se fait de manière totalement automatique.
C'est ça. Et alors, l'autre option, et celle-là, je l'aime bien, se faire livrer ses courses directement dans son coffre.
Il y a moins de risques, ça c'est vrai. Il y a moins de risques. Et ça aussi, c'est testé, alors notamment au Royaume-Uni, il y a plusieurs expérimentations où là, en gros, le principe, c'est vous êtes au boulot ou n'importe où, vous savez que votre frigo et vos placards sont vides, vous passez votre commande, le livreur arrive. Alors, c'est un peu le même principe, il va pouvoir ouvrir votre coffre sur les voitures de dernière génération. On peut maintenant avec le smartphone déverrouiller le coffre s'ouvre, on met le colis. Alors faut pas avoir commandé quand même de la glace ou de la mayonnaise qui va rester toute la journée par 40 degrés dans le coffre, c'est un peu embêtant, mais pour de l'épicerie ça fonctionne très très bien. Et alors là où ça fonctionne encore mieux, et je trouve que c'est très malin, c'est pour le retour des colis. Par exemple, vous avez commandé des chaussures, c'est pas la bonne taille, vous voulez renvoyer le colis, bah là vous le mettez dans votre coffre. Et en fait, il y a un livreur qui vient
chercher. Ça c'est bien ça.
Ah
oui.
Ça c'est une très très bonne innovation. Et donc là, c'est notamment Ford qui teste ça au Royaume-Uni.
Mais moi, ça m'interroge un peu parce qu'on fait quand même que dire que on est des feignants, les gens veulent plus travailler, ben maintenant on veut même plus faire nos courses. Qui va faire ça en fait? Est-ce que c'est les mêmes gens que les livreurs Uber, enfin les Uber ou les ou beaucoup de livreurs Deliveroo sans papier qui travaillent dans des conditions atroces, on l'a vu pendant le confinement. Enfin en fait, on exploite encore plus des gens parce qu'on a la flemme de faire nos courses.
Les livreurs Amazon, hein,
Lumière, elle nous a plombé. On était tous comme des dingues avec cette histoire de corps, on est mort.
Bah on élargit vraiment le débat, mais en fait là c'est les mêmes, ça va être que les livreurs Amazon qui vous livrent vos colis
pour
une paire de chaussures, donc voilà. Après, si on commence.
Quelle valeur on donne au travail, en fait? Moi, c'est ça la question qui ça me pose.
C'est une autre chronique. Alors, on continue à parler d'Amazon. Parce que,
ah, mais ouais, vos chouchous. Je sais
non,
bien.
C'est pas mon chouchou, bon, bien sûr, mais
ça marche.
Ouais, ça marche, ça. Ça y est,
mais c'est un autre débat.
Enfin, moi, en ce moment, quand même.
Amazon qui pense à beaucoup de choses. En ce moment, ils sont en train de virer plein de gens. Amazon qui pense à beaucoup de choses, et notamment à la livraison pendant un trajet en bus.
Ouais, alors là, ça va très loin. Ils ont déposé des brevets. Alors, on ne sait pas si ce sera industrialisé, ça fonctionnera réellement, mais en tout cas, ils y réfléchissent. Ou en gros, le principe, c'est que vous passez commande et vous pouvez récupérer votre commande en allant au boulot dans votre bus.
Pourquoi un bus?
Alors, dans un bus, pourquoi pas?
Je ne sais pas. Bon.
Alors, imaginez pas quand même que c'est le livreur qui entre dans le bus 128 direction Châtelet-Léal et qui dit ah, le colis, c'est pour Monsieur Morel. Non, c'est pas exactement comme ça. En fait, c'est des casiers qui vont être installés à l'arrière du bus, exactement comme ceux qui sont déjà installés dans les gares. Vous savez, vous êtes
Amazon
Locker.
C'est ce bus-là qui va venir.
Ah, bah, c'est vous qui choisissez. Vous dites, voilà, je prends le 128 tous les matins à cette heure-là, il faut que mon colis soit dans le bus.
Il faut arrêter le bus.
Il
est en retard.
Tu rates le colis avec. Donc c'est un peu dommage.
C'est la double peine.
Il faut mettre un AirTag dans ton colis.
C'est ça. Ouais, non, mais voilà.
Je le sens pas, ça.
Non, mais c'est des.
Là, Jeff Bezos, il est pas bien, là.
Non, vous lui enverrez un mail, peut-être.
Je vais essayer.
Mais vous avez vu le centre de recherche qu'a créé Amazon avec des milliers de personnes et des milliards de dollars d'investissement pour avoir des idées comme ça.
Donc, bien sûr,
c'est une mauvaise idée. Non, mais c'est pour ça.
Mais ils n'arrêtent pas. Je veux dire, je sais pas ce qu'ils vont nous
dire. Et entre-temps, leurs employés, parce que j'ai travaillé dans le syndicalisme aux États-Unis, ils portent des couches parce que ça serait problématique pour la marge d'aller aux toilettes.
Oh mon Dieu.
Donc là, notre chronique est plombée.
Donc, désolé, je plombe le truc, je vais arrêter.
Non, mais c'est des vrais sujets.
Moi, écoutez, on verra ça plus tard.
Je sais que Fred adore les trottinettes, donc demain on va parler de trottinettes.
Voilà. Ah, si c'était pour dire du mal, je serais ravi.
Ouais, en fait, il y a la question de l'interdiction des trottinettes en libre service. Est-ce que la solution, ce serait pas d'avoir des trottinettes qui sont plus intelligentes et qui permettent d'éviter les accidents? Il y a des choses assez intéressantes qui sont en cours d'expérimentation.
Trottinettes volantes. Trottinettes du tout.
Ah bah voilà, si vous réglez le problème,
c'est ça,
comme
le progrès.
Il n'y a plus de chronique.
Moi, pour moi, ça c'est le progrès. Plus de trottinettes. Merci Anthony Morel, tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parle de l'annonce du ministre du Travail, Olivier Dussopt. 1130 € pour la retraite minimum, c'est 85% du SMIC, mais est-ce suffisant lorsqu'on a travaillé toute sa vie? On vous attend au 32-16, à tout de suite sur RMC.